Le nouveau titre sonne un peu prétentieux, mais c'est parce que je voulais faire synthétique. Donc, l'ultime menace, c'est l'ordre du possible. Je vais essayer de définir un peu de quoi je veux parler au fur et à mesure. Donc, mon intervention va surtout porter sur des textes de Günther Anders, dont il a déjà été question, que je commence tout de suite par citer avec une petite phrase qui sonne polémique, qui date de 1986. Les véritables terroristes d'aujourd'hui sont ceux qui effraient notre monde commun sans interruption avec la menace d'une destruction. Donc, juste pour mettre en arrière-plan l'idée que, de s'interroger sur qui exerce la terreur à l'heure actuelle, sur un plan politique et technique. Donc, j'ai vu que le thème global était l'acceptabilité. Si on réfléchit un peu à ce que signifie le fait d'accepter, on peut remarquer d'abord que ça peut être ou bien une acceptation volontaire, disons émancipatoire, lorsqu'on comprend qu'on comprend quelque chose et qu'on doit accepter une vérité, ou bien une soumission, on peut faire accepter quelque chose à quelqu'un. Si on réfléchit donc avec cette dualité, on peut remarquer d'abord, disons dans le sens commun, qu'on a une acceptabilité passive de la menace nucléaire permanente. C'est-à-dire qu'on accepte qu'aucun lieu en France soit à moins de 300 km d'une installation nucléaire, que ce soit une centrale, un centre de retraitement de déchets ou bien un centre de stockage de missiles. Et d'un autre côté, donc on a une sorte d'indolence politique face à cette possibilité de l'accident, face à cette proximité de la matière fissile qui est dangereuse pour la vie. Et d'un autre côté, on a un refus actif de l'usage de la force dans la lutte politique, en raison de nos consciences morales éduquées. C'est-à-dire que, si je prends des exemples tout à fait récents, et les médias produisent évidemment ce type de discours, on va s'offusquer du déchirement de quelques chemises patronales, et par contre, la violence systématique faite au milieu travailleur, etc., est complètement passée sous silence et on l'accepte pleinement. Je parle, par exemple, pour mon propre cas. La semaine passée, j'étais en Autriche où on avait un invité prestigieux, représentant de la gauche hongroise, qui nous a sorti des choses complètement absurdes et qui parlait donc de la révolution des travailleurs, de la solidarité entre travailleurs, mais il n'avait pas compris qu'il était face à un public de précaires de l'enseignement supérieur et que la précarité de l'enseignement supérieur implique une absence de solidarité puisque c'est le système pyramidal qui fonctionne ainsi. Donc, simplement pour partager un petit énervement récent sur le discours représentatif d'une gauche européenne qui, selon moi, est particulièrement problématique puisqu'elle donne le bâton pour se faire battre à tous les niveaux par n'importe quel parti adverse. Donc, tout ça pour arriver à quel problème ? On aboutit régulièrement à l'idée que la violence comme moyen, peu importe la fin, serait inacceptable, l'usage de la force. Mais à quelles conditions la violence demeure-t-elle inacceptable ? En quoi l'ultime menace de la destruction nucléaire de la vie humaine serait-elle davantage acceptable comme risque permanent ? Donc n'y a-t-il pas déjà une violence passive qu'on tolère, à laquelle on est habitué, parce qu'on ne l'aperçoit pas, parce qu'on ne pense pas à elle, et une violence plus, à laquelle on est plus sensible simplement parce que c'est une violence qu'on peut percevoir, qu'on peut facilement imaginer, etc. Pour essayer d'envisager ce problème, j'aurai donc deux parties. Vous avez ça sur l'exemplier. Une première partie sur l'acceptation passive de la menace permanente et quelles questions cette acceptation peut poser. Et une deuxième partie que j'ai intitulée « Le droit à la légitime défense et l'acceptabilité de la violence ». Donc, je vais simplement dire que l'ensemble de ce que je vais avancer, on voit avec les citations, ça provient essentiellement de textes de Günther Anders. Alors, j'utilise malheureusement pas les traductions, donc les références sont avec les textes allemands. Mais si vous voulez lire le texte dont j'ai issu la plupart des citations sur la deuxième page, c'est issu du volume qui a été traduit par « Violence, oui ou non ». Aux éditions Fario, je crois. J'ai aucune idée de la qualité de la traduction, mais espérons qu'elle ne soit pas trop mal.
Pour un bon spécialiste de la langue allemande, c'était bien. Mais bon, après.
Donc, l'acceptation passive de la menace permanente. La menace nucléaire repose sur la possibilité technique de détruire la totalité du monde humain. Sa nature totale, disons même totalitaire en tant qu'elle n'a pas de limite, détermine un ordre du possible. C'est-à-dire que les responsables politiques des États dotés de produits fissiles, comme les producteurs d'armes et d'énergie atomique, font peser le risque d'une destruction en permanence et imposent ainsi passivement une menace en continu. On a la possibilité donc, de l'accident ou de l'explosion d'une bombe en permanence. Le cas encore récent de Fukushima au Japon, dont on a parlé déjà brièvement, est révélateur. Outre la minimisation constante des conséquences désastreuses pour la vie, la pollution marine inédite dont l'impact s'étend jusque la côte ouest des États-Unis, la contamination des ressources vitales environnantes, l'évacuation des habitants sur plusieurs kilomètres autour de la centrale, le stockage de déchets sans possibilité technique de traitement, forment autant de facteurs qui poussent l'entreprise responsable, TEPCO, à transformer la menace permanente en flux d'informations, une véritable terreur masquée en équivalent financier. On se réfugie derrière des tableaux de chiffres, une administration et finalement une gestion bureaucratique de l'événement. Afin de refuser cette menace, c'est-à-dire la possibilité permanente d'une escalade dans l'usage de la force nucléaire militaire ou civile, les premières actions politiques à mettre en place consisteraient peut-être d'abord à démanteler les installations nucléaires afin de préserver ce qui n'est pas encore contaminé. En revendiquant simplement quoi ? Que l'annihilation du monde ne devrait plus être l'ultime menace des possibilités technologiques. C'est-à-dire qu'un des premiers gestes écologiques pourrait dire simplement on peut prendre le choix politique d'investir dans des énergies renouvelables, dans d'autres types de recherches. Alors que si on regarde les budgets des recherches en physique appliquée, si vous regardez l'allocation des budgets ne serait-ce qu'en France, elles sont allouées principalement à Areva et à la recherche en physique nucléaire. C'est-à-dire qu'un doctorant qui aurait un projet en recherche environnementale en termes de physique appliquée a très peu de chances d'être financé. Alors que par contre, quelqu'un d'autre qui travaillerait avec une application dans le privé pour Areva trouverait des équipes de recherche, des financements, etc. Donc il y a quand même des décisions politiques qui sont prenables. L'espoir est encore un peu permis. Alors, si on en vient à Günther Anders, une de ses thèses un peu polémiques consiste à dire que la paix qui règne actuellement reste une guerre. Alors évidemment, une guerre en un sens particulier, il ne s'agit pas de dire nous sommes en guerre, au contraire, puisque nous ne sommes pas dans une situation de mobilisation directe. Nous ne devons pas prendre les armes, etc. C'est un sens de la guerre bien particulier, sur lequel je vais revenir. Les désastres qui ont déjà eu lieu permettent de mieux se représenter quelles sont les conséquences de l'usage de l'atome. On a par exemple Pripyat et Tchernobyl, qui peuvent maintenant ironiquement être visités par des touristes. Et quand on visite ces lieux, on découvre un habitat ruiné qui retourne, paradoxalement, peu à peu, à un état naturel, sans homme, où la vie persiste, la vie animale, la vie biologique, la vie végétale, bien qu'étant malade. Une partie du globe terrestre n'est déjà plus à conserver. Aux différents lieux des désastres, qu'on connaît à peu près tous, s'ajoute ce moins connu d'Aktaou au Kazakhstan, les multiples centres de stockage de déchets nucléaires au Kirghizistan, ou encore la région contaminée par les recherches nucléaires à Tcheliabinsk, en Russie. Anders invite à voir, dans chacune de ces contaminations, un modèle de ce qui est voué à se reproduire si nous ne faisons rien. C'est-à-dire que l'ordre du possible, les actions possibles, est déjà déterminé, en quelque sorte, par les événements historiques. Nous ne pouvons plus dire, comme avant l'usage, le premier usage de la bombe nucléaire, ou avant le premier accident nucléaire, que nous ignorons. Et pour cette raison, politiquement, la formule célèbre de Clausewitz doit être reformulée. Il ne s'agit plus de voir en la guerre la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est la formule de Clausewitz, mais je lis là la première citation qui est dans l'exemple que je vous ai donné. Aujourd'hui, à l'inverse, les installations pacifiques ne sont rien d'autre que la continuation de la menace militaire par l'intervention d'autres moyens. Ou pour le formuler plus simplement, la paix d'aujourd'hui, la paix politique, est la continuation de la guerre militaire avec d'autres moyens. Donc Anders fait ici quelque chose d'assez courant chez les interprètes de Clausewitz qui consiste à intervertir la formule pour y donner un nouveau sens. Alors évidemment, il peut paraître difficile d'associer une représentation de la guerre, ici, à un état de confort quotidien relatif, partagé par une majorité de consommateurs de l'énergie produite par le nucléaire. Finalement, on peut tenir n'importe quel discours apocalyptique. On a nos ordinateurs portables, le courant électrique, et c'est produit par l'énergie nucléaire, moins à 80% en France. On l'utilise, donc, quoi qu'il arrive. Il est nécessaire d'admettre un présupposé. La simple possibilité de l'anéantissement, de l'accident ou de la bombe, provoquée par l'accident nucléaire ou l'usage de la bombe, équivaut déjà à sa réalisation. Quand on accepte ce présupposé, c'est quelque chose qui est programmatique dans les écrits d'Anders, c'est-à-dire qu'il utilise une logique du pire. En utilisant cette logique du pire, on va chercher à produire une logique qui, en retour, va nous faire agir de façon à éviter que le pire se produise. Il a une dynamique négative. C'est une dynamique assez courante, c'est partagé par plusieurs philosophes, je pense. C'est déjà, ne serait-ce que, on prend l'exemple de Nietzsche qui consiste à briser les idoles de façon à ce qu'on se libère de leur emprise. Il a toujours donc cet usage de la négativité qui est bien particulier dans ses œuvres et qui fait qu'on peut souvent, on peut mal le comprendre parfois. Donc je ne recritiquerai pas les auteurs qui ont déjà été très bien critiqués dans l'intervention précédente. Bref. Si on réfléchit à cette possibilité de l'accident nucléaire ou de l'usage de la bombe qui équivaut à sa réalisation, bien en fait, en doctrine politique ou en relation militaire, c'est simplement la doctrine de la dissuasion nucléaire. Puisque, donc, je reviens à mon texte parce que sinon je vais m'en aller. La raison en est d'abord que le rapport de proportion entre le risque d'un dysfonctionnement dans l'usage de produits fissiles et la dimension des conséquences spatio-temporelles devrait suffire à dissuader toute tentative d'appropriation du nucléaire. Pourquoi ? Parce que le simple déchet nucléaire a une durée de vie qui dépasse, une durée d'effectivité qui dépasse celle de toute civilisation humaine connue. Donc même un centre de retraitement de déchets ou de stockage de déchets, comment peut-on imaginer que dans quelques milliers d'années, si la civilisation humaine existe encore, elle comprendra le langage, la communication, nos signes que nous pouvons utiliser pour montrer que c'est un site dangereux. Et c'est toute une question, enfin une problématique en Finlande un énorme centre de retraitement ou de stockage de déchets. Quels signes utiliser pour que dans des centaines d'années, l'humanité puisse encore comprendre ? Ou faut-il simplement tout cacher ? Une question qui reste ouverte. Disons qu'un nouveau type de guerre est né avec Hiroshima, c'est-à-dire que la destruction implacable a atteint un seuil d'efficacité inégalé, sans discrimination aucune entre les victimes touchées. Face à une menace immorale déclenchée par les États-Unis, tout autre État s'est dit contraint de menacer en retour d'une riposte tout aussi immorale. La paix serait due alors à ne pouvoir être qu'une paix armée, donc la préparation perpétuelle d'une guerre, fondée en droit sur un équilibre de la terreur. Même si se préparer à tuer, menacer d'anéantir, diffère du meurtre et de l'annihilation effectif, la dissuasion ne fonctionne comme doctrine de politique étrangère qu'en raison de la proximité entre la possibilité du désastre et sa réalisation. Et l'originalité de cette menace repose dans le fait qu'elle soit facile à vivre. La menace de destruction, même si elle est constante, reste invisible, non perceptible. La dissuasion, de plus, ne requiert aucune action pour être maintenue. L'accord tacite entre le menacé et le menaçant implique que les rôles soient partagés à égalité. La sécurité, à l'échelle mondiale, ne proviendrait donc que d'un terrorisme réciproque, assumé, accepté par tout le monde. Comme le résume Walzer, dont Bruno a fait mention tout à l'heure, les partisans de la dissuasion ne peuvent l'être sans être eux-mêmes les adeptes de la menace continue. Deuxième citation, qui n'est pas d'Anders, donc de Walzer. Nous nous efforçons d'être crédibles, mais ce que nous projetons et ce que nous avons l'intention de faire ne l'est pas. Cela contribue à rendre la dissuasion psychologiquement supportable et permet peut-être aussi d'améliorer marginalement la position dissuasive d'un point de vue moral. Si la dissuasion nucléaire reste acceptée, il ne faut pas ignorer que son maintien repose sur le fait permanent d'assumer la possibilité d'un massacre de population. La décomposition de l'opposition bilatérale de la guerre froide entre États-Unis et URSS, en une pluralité d'États dotés des armes nucléaires, ne supprime en rien la problématique de la menace globale. Elle ne fait qu'en diffuser la menace à un niveau interétatique, voire infra-étatique, ce qui multiplie les possibilités d'attaques localisées, car toute destruction limitée par usage de la force nucléaire présente toujours les dangers d'une escalade. Cette montée aux extrêmes tend à prendre la forme de ce que Clausewitz appelait, je pourrais revenir si on veut en discuter, la guerre absolue, qu'il différenciait des guerres réelles. Guerres réelles qui sont, quant à elles, soumises aux aléas pratiques de la guerre qu'un conflit purement nucléaire tend nécessairement à réduire. C'est-à-dire que si on suit la conception clausewitzienne, toute guerre réelle ne peut pas suivre un schéma purement théorique. Pourquoi ? Parce qu'il a le concept de friction. Le concept de friction désigne simplement l'inertie du phénomène militaire, qui fait qu'à partir du moment où la guerre est déclenchée, on a le brouillard de la guerre. L'acte guerrier lui-même a toujours une part d'imprévisibilité, une inertie, qui fait qu'il peut toujours s'arrêter et qui fait que l'escalade n'est pas automatique. C'est pour ça que, par exemple, si je prends la Première Guerre mondiale, pourquoi on est passé d'une guerre de mouvement à une guerre de tranchées ? C'est parce qu'il est arrivé un moment où les moyens techniques étaient identiques des deux côtés, ou plutôt les moyens techniques de massacre étaient tels que tout le monde y était gagnant de finalement construire des tranchées et de passer à une guerre complètement défensive et d'arrêter de s'attaquer, en cherchant à chaque fois, sur toute la bande du front, de faire des attaques ponctuelles par endroit et de concentrer les forces à un endroit. Bref, ce qui veut dire que l'idée qu'on a une escalade automatique du phénomène guerrier, du conflit guerrier, dépend des moyens qu'on utilise. En utilisant le moyen nucléaire, on fait quoi ? On utilise un moyen qui est tellement rapide, c'est-à-dire qui dépasse simplement l'échelle de réaction humaine. Il faut 30 minutes pour une tête nucléaire lancée de la Russie pour atteindre une cible américaine. En 30 minutes, on n'a pas les moyens humains de réagir. C'est trop rapide. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On automatise le processus. Et en automatisant le processus, on fait alors confiance à la machine pour résoudre le problème posé par la machine. Et c'est là qu'on délègue complètement la responsabilité à un système technique complètement automatisé. Donc, évidemment, c'est encore plus effrayant. L'état de guerre ou l'état d'urgence atomique dépend d'abord de la permanence de la menace terroriste, aux conséquences dévastatrices qu'elle présuppose. Et en retour, puisqu'on a une menace permanente, toute politique sécuritaire trouvera toujours une justification pour son application aux populations. Autrement dit, si je reprends la formule de Clausewitz, la politique qui doit donner sa finalité aux militaires se retrouve ici renversée par la force nucléaire. C'est le moyen technique qui dicte sa conduite aux politiques. La possibilité technologique du pire, ce que j'appelle l'ultime menace, conditionne la répression politique et l'ordre du possible qui la justifie. Le statu quo de la menace nucléaire, qui se répand avec la prolifération de l'usage civil, toujours à protéger contre les attentats potentiels, ne doit pas faire oublier que l'urgence et la crise permanente, si elles peuvent être supportées, ne peuvent que conduire à des révoltes, à moyen ou long terme, en raison de cette répression politique qui ne peut aller qu'en s'accroissant. Comme le dit Anders, le domaine de la nécessité est sujet au changement historique. Il serait donc davantage moral et politique de d'abord réfléchir à la nécessité du besoin de tuer qui motive finalement la possession d'armes nucléaires comme la possibilité de leur utilisation, chose qu'on finit par oublier, puisque la finalité de la possession d'une arme, ça reste toujours de tuer un ennemi. Pour synthétiser le problème, si on reconnaît cet état d'urgence atomique, cette menace permanente, que pouvons-nous opposer à ceux qui veulent tuer et laissent se perpétuer la menace ? Telle est ce qu'appelle Anders la question épineuse. Nous nous trouvons en présence d'un état d'urgence. Alors un état d'urgence qui est non pas celui dont l'origine est une politique répressive justifiée par du terrorisme politique récent, mais celui dont l'origine est une possibilité technique justifiée par la doctrine de la dissuasion, à savoir la menace directe du nucléaire. Cet état d'urgence environnementale, instauré par une hostilité technologique, exige des devoirs spécifiques. Il ne s'agit pas d'une menace indirecte et plus diffuse, d'une temporalité différente, telle que celle du réchauffement climatique dont les conséquences, en dépit évidemment de leur gravité, n'ont pas le même impact sur l'environnement qui est bouleversé et transformé, mais n'ont pas détruit directement. Donc on peut simplement faire une différence d'échelle au niveau de la temporalité et de la conséquence directe. Si la menace acceptée est reconnue comme étant directe et permanente, une réponse pacifiste face à ceux qui acceptent de dissuader, donc de menacer de tuer d'autres qu'eux, en risquant pourtant d'entraîner leur propre mort, est-elle suffisante ? Les manifestations pacifiques habituelles, codifiées et légalisées, encadrées par les CRS, permettent-elles d'obtenir gain de cause ? N'est-ce pas une simple pratique qui vise à consoler, pour reprendre la consolation de Michael Fussell, ou consolider la bonne conscience morale du citoyen bourgeois bien éduqué ? L'idée de Günther Anders, qui provoqua une polémique en Allemagne et en Autriche en 1986, est la suivante. Nous devons vraiment gêner et empêcher d'agir ceux qui, bornés et tout-puissants, peuvent décider de l'être ou du non-être de l'humanité. Évidemment, qu'est-ce qu'on entend par gêner et empêcher d'agir ? La situation est désespérante. Et pour cette, on pourrait être vite fataliste. Et c'est un problème, justement, de la rhétorique écologiste, puisqu'on peut très rapidement tomber dans le fatalisme et se dire, bon, bah, à quoi bon ? Ce qui compte, c'est que j'ai un travail, la peur de la bombe nucléaire, c'est d'une autre époque.